unitaire, au cœur de l'action des défenseurs de l'environnement. Une émission de Michel Forst et Magali Lafourcade, produite par Amicus Radio.
Bonjour à toutes et à tous. La COP28 à Dubaï est certainement la COP de tous les paradoxes à bien des égards. Et dans cet épisode, on va essayer de mieux comprendre à la fois les enjeux de cette conférence internationale, mais également les obstacles auxquels sont confrontés les participants. Et pour illustrer les points d'attention particuliers, mais aussi les espoirs qui sont nourris, on a décidé d'entendre des témoignages de défenseurs qui y participent.
La 28e conférence mondiale sur le climat est certainement la COP de tous les paradoxes. Paradoxe du gigantisme de l'événement, puisque les délégués de 198 pays se retrouvent sur place, les ONG, les journalistes, les scientifiques, mais aussi les industriels, les lobbyistes, les financiers. Nous approchons à un chiffre spectaculaire de près de 100 000 personnes qui seraient accréditées pour participer à cet événement majeur, ce qui fait de cet événement le plus grand rassemblement pour le climat jamais organisé. Paradoxe du lieu également, puisque Dubaï est l'antithèse de la sobriété. C'est la ville du gigantisme, du shopping. Le choix des Émirats arabes unis, une monarchie pétrolière, avait été perçu comme une provocation par les ONG, tant le pays est régulièrement pointé du doigt, non seulement pour les violations des droits humains, mais aussi comme étant un haut lieu de la criminalité financière. Paradoxe de la présidence de la COP, puisque alors que les défenseurs de l'environnement demandent que soit actée la sortie de toutes les énergies fossiles, c'est le sultan Al-Jaber qui préside cette COP, tout en étant le patron de la principale compagnie pétrolière émiratie. Si bien que certains surnomment cette COP la COP pétrole. Toutefois, les COP s'inscrivent dans une série qui permet de dresser à chaque fois un bilan de la réalisation des engagements pris précédemment et de chercher à aller plus loin pour contenir le réchauffement climatique. Alors cet épisode est enregistré dans des conditions un peu particulières puisque Michel Forst se trouve à Dubaï où se tient du 30 novembre au 12 décembre la COP28. Michel, le but de cette conférence est de faire le point sur la mise en œuvre des engagements qui ont été pris dans le cadre de l'accord de Paris de 2015, mais aussi de prendre des décisions, une série de décisions pour accélérer les efforts pour contenir le réchauffement climatique. Pourrais-tu nous dire quelles sont les attentes des défenseurs de l'environnement ?
Oui, alors d'abord, moi, j'ai été frappé de voir que ce qu'on appelle les défenseurs de l'environnement, ce sont des organisations non gouvernementales qui sont de véritables spécialistes et qui viennent à cette COP avec leurs propres spécialistes qui parlent du fossile, qui parlent du renouvelable, qui parlent du carbone, des financements. Donc, c'est pas seulement des organisations très militantes, c'est aussi des organisations de spécialistes et ça change un peu la perspective, en tout cas pour ceux qui participent à la conférence. En même temps, ce sont des grandes ONG internationales qui sont reconnues par les États. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir que les délégations des États connaissent déjà en fait leurs interlocuteurs des ONG. Et donc, ça donne un aspect très particulier parce qu'en fait, on sent que ce sont des spécialistes qui parlent à d'autres spécialistes, qui défendent des points de vue très différents, bien sûr, mais qui en même temps se connaissent, savent comment les autres vont réagir. Alors, c'est assez intéressant d'observer ce dialogue nourri entre les uns et les autres. Alors, les attentes sont bien évidemment très, très nombreuses, mais on n'a pas le temps de toutes les passer en revue. On va dire que globalement, ce qu'attendent les ONG internationales, mais aussi les militants qui sont présents sur le terrain, c'est d'abord de faire le point sur la mise en œuvre des accords de Paris. C'est-à-dire que font les États, qu'ont fait les États depuis la dernière conférence à Sharm el-Sheikh pour mettre en œuvre les engagements qu'ils avaient pris, voir également comment les négociations qui ont pu avoir lieu en Égypte et qui maintenant se continuent ici à Dubaï vont être productives d'effets. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui vont sortir de cette COP? Les attentes sont nombreuses sur bien des domaines, sur le fossile, la sortie du fossile, la question du nucléaire, la question de l'accélération des efforts également. J'étais ce matin avec l'un des membres du GIEC qui me disait qu'on est sur une trajectoire qui est loin d'être celle qui était prévue, c'est encore pire, on est proche de la catastrophe annoncée. Donc il y a une vraie attente de la part de la société civile de voir à cette COP des décisions formelles être prises sur des éléments importants. Moi, il y a un élément qui me parle beaucoup, c'est la question de la mise en place de ce fameux fonds perte et dommage, comme on dit, qui a été, à la surprise générale, annoncé par le président de la COP. C'est un fonds très important, puisqu'en fait, c'est un fonds qui a été réclamé par les ONG, proposé par les États, négocié par les États à nombreuses reprises, mais qui, en fait, n'avait pas donné pour l'instant de résultats. L'objectif de ce fonds, c'est un fonds destiné à aider les pays les plus pauvres qui font face, bien évidemment, aux conséquences négatives des risques du changement climatique. Et donc, la bonne nouvelle annoncée, c'est que le président annonce dès le début de la conférence, à la surprise générale, que finalement, on a un accord, on aura un fonds, ce que les ONG attendaient. Et donc, ça a pris tout le monde de court. Et en même temps, immédiatement après, on a eu les chefs d'État et de gouvernement qui venaient faire leurs annonces. L'Union européenne qui annonce 225 millions d'euros, la France 100 millions, les Émirats arabes 100 millions d'euros, etc. Une avancée certainement pour les ONG, mais en termes d'attente, beaucoup reste à faire. Il y a notamment un élément qui préoccupe beaucoup les ONG, c'est le fait que les défenseurs, les populations autochtones n'ont pas voix au chapitre et que seuls les États vont décider de l'allocation des fonds sans que pour autant les bénéficiaires puissent avoir leur mot à dire. Un deuxième problème, c'est la question également de la compétition avec des financements bilatéraux. Certains États annoncent à la fois qu'ils vont donner des financements importants pour le fonds, mais en même temps donnent plus d'argent dans des financements bilatéraux avec des États, ce qui pose la question de la cohérence internationale de ce fonds. Voilà donc globalement en fait des attentes qui sont très fortes, avec des bonnes nouvelles, mais encore tout reste à faire et la conférence commence en fait seulement maintenant avec les négociations multilatérales.
Alors on sait aussi qu'il y avait il y a un enjeu extrêmement important pour contenir le réchauffement climatique qui est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Or les énergies fossiles sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Les ONG demandent l'arrêt de l'utilisation des énergies fossiles. Comment se passent les discussions autour de cela? Quels sont les points de crispation?
C'est un des sujets les plus litigieux, si je puis dire, le plus difficile, parce qu'on a deux points de vue totalement différents et parfois aussi des États qui jouent un double jeu. On a ceux qui disent que ce n'est pas possible. On reconnaît que les énergies fossiles sont responsables, encore que certains disent que ce n'est pas prouvé. On a des pétroliers qui disent c'est pas prouvé et en même temps les ONG qui disent on est sur une trajectoire tellement impensable qu'on peut pas faire autrement et donc pour l'instant c'est un dialogue qui est un peu un dialogue de sourds qui est bloqué. On verra ce que vont donner les négociations, mais pour l'instant peu de gens sont optimistes sur la sortie des énergies fossiles.
On voit qu'il peut y avoir des avancées autour du charbon, mais que c'est beaucoup plus compliqué sur d'autres types d'énergie fossile. On voit que certains sont pour la sortie, mais avec un calendrier qui n'est absolument pas précisé. Et puis certains, surtout, évoquent le fait qu'on n'a qu'à recapturer le CO2 dans l'atmosphère, comme si la technologie allait sauver la vie de l'humanité. Et là-dessus, est-ce que les ONG font un front commun ?
Alors là, il y a véritablement un front commun de la part des ONG, donc une mobilisation exemplaire, elles tiennent le même langage, il n'y a pas de doute, on le voit, la manière dont les documents sont écrits, elles font des formulations également écrites des documents de négociation, elles sont de véritables spécialistes, et non, pour l'instant, c'est un enjeu politique, en fait. On a les pétroliers d'un côté qui font leur lobby, les États pétroliers qui font leur lobby, les États comme la France qui ont de grandes entreprises pétrolières comme Total Energy qui annoncent qu'ils vont continuer non seulement à explorer mais à exploiter. Donc on est sur un dialogue pour l'instant extrêmement bloqué. C'est un sujet un peu inquiétant.
Alors tu es sur place, tu parles de ce dialogue qui peut être bloqué, de l'expertise que déploient les ONG qui sont loin de ce qu'on peut imaginer quand on ne connaît pas ce monde-là de la militance et de l'expertise militante. Quelle est l'ambiance sur place ?
Alors l'ambiance, elle est d'abord liée au contexte général, donc beaucoup d'attentes. On voit bien que les participants sont à la fois sensibles sur le fait que les annonces faites par le GIEC sont à chaque jour de plus en plus dramatiques. L'ambiance est aussi liée au fait que c'est Dubaï, donc il y a beaucoup de discussions autour de Dubaï, pays controversé, tu l'as dit toi-même, un président controversé, un pays climaticide, un pays, et ça on l'ignore beaucoup, dans lequel il n'y a aucune société civile, tous les militants des droits humains, les militants de l'environnement sont en prison, ou bien à l'étranger en exil, ou bien ont perdu leur nationalité, donc c'est un pays qui est très particulier, au sens où il n'y a pas du tout de participation de société civile. Et même en Égypte, la dernière fois, il y avait, c'était compliqué, une participation à la société civile. L'ambiance est également liée à l'espace, donc c'est un énorme site dans lequel on fait des kilomètres de salle en salle, de réunion en réunion pour aller arriver à temps aux réunions avec une chaleur très forte. Les 100 000 participants annoncés, ils sont bien là. Il y a la foule, on fait la queue pendant une heure et demie le matin pour arriver, pour rentrer dans les locaux à cause de la fouille nécessaire en termes de sécurité. En termes d'ambiance, j'ai envie de dire que c'est très studieux. On voit que les gens courent de réunion en réunion, de panel en panel, avec des papiers à la main. Donc, il y a beaucoup de bilatérales, beaucoup de lieux dans lesquels on discute ensemble, on prépare les choses ensemble. Donc, une ambiance très studieuse. Ce qui est frappant également, c'est le côté multiculturel. Donc, on a des gens de tous les pays, parfois dans leurs habits locaux, qui se retrouvent, qui discutent entre eux. À la fois beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, et puis en même temps un certain pessimisme de la part de certains qui disent on n'a pas encore atteint le bout du chemin, il faudra encore d'autres COP pour arriver à des résultats. Et chacun se dit que une COP nouvelle, c'est à la fois un peu de temps perdu pour obtenir des résultats que tout le monde attend.
Alors justement, cette COP, tu l'expliquais, hein, elle a un caractère exceptionnel à de nombreux égards. 100 000 personnes, c'est un bilan carbone hors norme, c'est un coût exorbitant. Ce qui a frappé tout le monde, c'est aussi le nombre de lobbyistes accrédités. Est-ce que tu peux nous en dire un mot?
Oui, alors le coût exorbitant, c'est un coût exorbitant sur le plan financier, mais c'est aussi un bilan carbone qui est désastreux. Donc, on parle des avions, des taxis, de la climatisation qui débordent parfois sur le trottoir. Donc, on sent des zones fraîches dans la rue. Donc, on climatise la rue, ce qui est un peu paradoxal pour une COP. Et en même temps, c'est un lieu dans lequel il faut faire de la diplomatie. Donc, c'est indispensable de se retrouver physiquement. On peut pas empêcher les diplomates de se retrouver. Il faut qu'ils soient ensemble dans des salles de réunion parce que c'est une dynamique diplomatique. Donc, les délégations sont plus nombreuses parce que les enjeux sont importants. Et donc, c'est effectivement à la fois cher et en même temps nécessaire. Alors il y a bien sûr ceux qui viennent pour en être, qui font des selfies, qui participent aux discussions, qui sont là également pour le fun, qui sont de Dubaï parce que c'est Dubaï. Ça c'est aussi très regrettable, mais en même temps il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut que cette COP ait lieu, il faut que les délégations puissent discuter entre elles, que des discussions soient sérieuses, des décisions soient prises. Et donc c'est un bilan carbone important mais nécessaire pour la tenue d'une COP.
Et les lobbyistes dans tout ça ?
Alors, c'est assez frappant, c'est assez même amusant, parce que les lobbyistes, on les voit, ils sont très présents. On les voit même physiquement, donc avec leur tenue parfois de lobbyistes. Ils sont présents sur tous les sujets qui leur sont familiers, qui leur sont chers, donc le pétrole, le gaz, le charbon. Il y a les technos, il y a ceux qui parlent d'intelligence artificielle, il y a les financiers. Leurs spécialistes, on les voit, ils sont très nombreux, très compétents, comme les ONG également, comme les États. Donc il y a une vraie compétence également de la part des lobbyistes. Ce qui est frappant également, c'est qu'on voit que certains d'entre eux ont créé des fausses ONG, des faux nés, comme on dit, des ONG qui travaillent des faux militants pour contrer les discours des ONG, mais qui sont immédiatement reconnus par les véritables ONG. Donc ça crée des confrontations parfois amusantes entre des fausses ONG et des vraies ONG. Donc le rôle des lobbies est important. Ils sont là pour plaider la cause, la cause des financiers, la cause du pétrole, la cause du gaz, la cause du charbon, la cause des technologies, la cause de la finance. Mais ça fait partie de la règle du jeu. Les lobbyistes sont présents, ils sont accrédités, ils ont le droit d'être là, même si on peut effectivement parfois contester le rôle qu'ils jouent dans ces réunions. Ce qui est à noter également, c'est que on voit malheureusement des délégations qui sont directement accompagnées par des lobbyistes, c'est-à-dire qu'ils vont en négociation avec des personnes qui sont connues comme étant des lobbyistes et non pas des membres des délégations. Et là, ça pose des vraies questions sur la composition des délégations.
D'accord, donc là, il y a un enjeu éthique. Alors, tu sais, parfois on entend dire que finalement, il y a peu de différence entre le plaidoyer que peuvent faire des ONG de la société civile et des lobbyistes qui font aussi à leur manière du plaidoyer. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là qui les mettent sur le même pied? Sur un pied d'égalité.
Alors, en termes de technique, on va dire que effectivement, les uns et les autres utilisent souvent les mêmes techniques, mais en fait, la posture est différente. Donc, on a d'un côté des lobbyistes qui défendent des intérêts financiers, des intérêts politiques, qui sont à côté de ceux qui défendent ces intérêts politiques ou financiers. Et puis, on a la société civile, les ONG qui font du plaidoyer, c'est autre chose. Ils plaident pour la mise en œuvre des droits, ils plaident pour les plus pauvres, ils plaident pour les pays en développement, ils plaident pour la le partage financier plus juste. Il ne parle pas d'intérêts financiers, il ne défend pas des intérêts financiers. Moi, j'ai envie de dire que c'est très différent. On voit bien, quand on les rencontre, ils plaident pour le bien commun et ils n'ont pas, comme les lobbyistes, des contraintes qui sont liées à un agenda diplomatique ou à des répercussions économiques. Donc, deux postures très différentes, même si les techniques sont proches.
Les techniques sont proches, mais les enjeux financiers ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. L'expertise est là, mais les moyens financiers pour convaincre les moyens qui sont déployés. On sait que pour les ONG, aller à Dubaï, c'est un coût qui est très, très, très lourd à porter, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour certains lobbyistes.
Oui, effectivement. Donc les lobbyistes sont payés pour ça. Donc on les voit dans les meilleurs hôtels. Ils arrivent en limousine, alors que les autres arrivent en métro, comme moi d'ailleurs. Et donc on voit bien la différence de posture et même dans leur habillement. Donc on les reconnaît tout de suite. Donc on se dit voilà, ce sont les lobbyistes.
D'accord. Alors. Tu es sur place en raison de ton mandat de rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement. Est-ce qu'il y a des points d'alerte particuliers, des points d'intention particuliers dans le cadre de ton mandat de protection des défenseurs ?
Alors moi, j'y vais avec une perspective très particulière. Moi, je suis le rapporteur spécial sur la protection des défenseurs de l'environnement. Et le mandat qui m'a été confié, c'est de veiller notamment à la question de l'accessibilité des locaux aux personnes les plus fragiles, la question de l'inclusivité de la conférence, veiller à ce que les ONG puissent avoir la parole. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire et les ONG critiquent également la manière dont les choses sont organisées. Par exemple, dans les salles de négociation, parfois il y a un filtrage à l'entrée des salles et on se demande comment ce filtrage est organisé. Et souvent, ce sont les ONG qui sont pénalisées. On laisse entrer des délégations très nombreuses avec leurs lobbyistes et après on dit il n'y a plus de place pour les autres et les autres c'est bien évidemment les ONG qui ne sont pas là au moment des négociations importantes. Donc mon rôle est de faire un travail de monitoring. Je fais beaucoup de plaidoyer, je participe à beaucoup de conférences, de panels, j'anime des panels également, je prône la participation, l'inclusion, la question de l'accès aux droits. Voilà, c'est un rôle très particulier. Je note également des points de défaut en termes d'organisation et je vais publier un rapport à la fin de la COP pour expliquer en quoi certains ont été pénalisés par cette COP et comment, pour la prochaine COP, on peut faire mieux pour améliorer la participation des personnes les plus fragiles, notamment les populations autochtones, mais également les paysans, les personnes qui viennent de pays très très lointains, comment peuvent-ils également participer ? Moi, ce qui me frappe, c'est que dans mes voyages internationaux, j'entends beaucoup me dire, les militants me disent, ils décident pour nous à Dubaï, on n'a pas été consultés, on ne sait pas de quoi ils vont parler. Au retour, personne ne va nous dire de quoi on a parlé, on va nous imposer des décisions qui ont été prises par d'autres, et ça, c'est une question qui me pose problème. Mon rôle est effectivement de veiller à l'information, à la participation des militants. Et donc c'est ça que j'essaie de faire au mieux. Et je vois que plus je suis là, plus je suis reconnu. Donc je suis invité de plus en plus à des réunions, parfois des bilatérales un peu étonnantes, dans lesquelles j'essaie de partager un message de meilleure participation de la société civile à cette conférence internationale.
Alors, tu as évoqué aussi d'autres conférences internationales antérieures, notamment en Égypte, et difficulté pour la société civile d'avoir une possibilité d'accéder, ne serait-ce qu'au pays en question. Est-ce que tu as repéré des risques de menaces ou pour l'intégrité physique des défenseurs qui sont sur place ?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première des choses, c'est qu'il n'y a pas de société civile ici à Dubaï. Ils sont tous en prison ou bien à l'étranger. J'ai pas eu connaissance de difficultés pour des militants d'autres pays pour se rendre à Dubaï. On n'a pas parlé de refus de visa. On a parlé de difficultés de visa, mais je serais incapable de dire si ce sont des difficultés diplomatiques ou des difficultés personnelles. Ce que je sais, c'est qu'il y a des militants émiratis qui sont à l'étranger, mais bien évidemment, aucun d'entre eux n'a voulu prendre le risque de se retrouver en prison à l'aéroport, et donc on comprend pourquoi ils n'ont pas voulu venir à cette COP. C'est vraiment une COP particulière, et le fait d'avoir décidé de le faire ici, à Dubaï, dans les Émirats, c'est vraiment une très mauvaise décision. La bonne nouvelle, c'est que on a une annonce depuis quelques jours de la prochaine COP, COP d'après, la COP 30, au Brésil, avec une annonce faite par le président Lula, d'avoir une COP véritablement inclusive, aucun refus de participation, et puis des méthodes de travail qui seront sans doute un peu différentes. Donc les ONG se projettent déjà sur la COP 30 au Brésil, avec des attentes très fortes en termes de nouvelles méthodes de travail, nouveaux mécanismes de discussion avec les États et les gouvernements, pour obtenir enfin des accords sur les questions qui leur sont tellement essentielles.
Et la COP 29, alors, elle n'intéresse personne ?
À la COP29, elle intéresse tout le monde, mais on ne sait pas encore où elle aura lieu. En fait, puisqu'en fait, aucun pays, ça devait être un pays européen qui devait l'accueillir. Il n'y a pas eu de candidature, donc elle aura lieu probablement à Bonn, au siège de l'UNEP, l'Organisation des Nations Unies pour l'Environnement. Mais pour l'instant, pas de nouvelles sur l'organisation de la COP29, en tout cas pas de nouvelles officielles.
Ce que je retiens de cet échange avec Michel Forst à Dubaï lors de la COP28, c'est que cette COP, dite la COP pétrole, est assez paradoxale compte tenu de l'endroit où elle se passe, compte tenu de la présidence du sultan Al-Jaber, qui est aussi le monsieur pétrole des Émirats Arabes Unis. Elle est aussi exceptionnelle par son ampleur, puisque 100 000 personnes sur place pour un événement climatique, c'est du jamais vu. Et elle est parfaitement essentielle. Essentielle puisque le GIEC reconnaît que les trajectoires sont pires que celles qu'il avait anticipées, que le réchauffement climatique est de plus en plus aggravé, que les trajectoires que nous prenons ne sont pas suffisantes et que dans ces conditions-là, il faut absolument s'entendre sur la sortie de toutes les énergies fossiles et sur l'adoption et l'opérationnalisation d'un fonds pertes et dommages. Et c'est là où, pendant cette COP, vient la première bonne nouvelle sur ce fonds pertes et dommages. Espérons que d'ici la fin de la COP, nous aurons aussi progressé sur la sortie des énergies fossiles. Je vous remercie.
Alors, comme je suis à Dubaï et que je rencontre beaucoup de défenseurs de l'environnement qui participent à la COP, j'ai décidé d'enregistrer plusieurs témoignages. Et vous allez entendre des témoignages de défenseurs de différents pays, en différentes langues, qui expliquent à la fois les enjeux, leur point de vue, leur vigilance, le plaidoyer qu'ils portent, et également leurs attentes, leurs espoirs vis-à-vis de cette COP.
I am Doka Sakurut, I'm from Uganda. I mainly came to COP to make sure that there is accountability and also representation of the youth and women, because our voices are usually suppressed. And to see that our leaders are actually fighting for us and not just listening to what they are being told to do, and to make sure that policies protect our people, not just the governments, but also our people.
Soy Diego, del sur de Colombia, el pueblo de Los Pastos. Actualmente vine gracias al proyecto Latin American Youth Climate Scholarship. Y bueno, estamos acá en la COP en Dubái para conocer un poco estos procesos, traer otras voces de jóvenes indígenas en territorio y que estos espacios no solo sean únicamente tomados por personas que tienen capacidades económicas. Considero que es la oportunidad para establecer otras narrativas diferentes a las ya acostumbradas para defender. Y creo que la expectativa más importante es que verdaderamente se lleguen a acuerdos para el cuidado de los territorios en Sudamérica, por ejemplo, para construir acciones verdaderamente y que los países que más han contaminado puedan aportar dineros para todas estas situaciones.
Hello everyone, my name is Amina Zizana Bengura and I'm from Sierra Leone Save the Children Climate Champion. So I'm here in Dubai to represent the voices of children who have been suffering because of climate crisis in my country, and also to amplify the voices of African children and children in the world, and also young people. So what I'm expecting from this event is to gain more idea, more innovative things. When I go back to my country, I will implement and make sure that it's safe and make sure that the environment is safe and people get to know more how to preserve themselves and how to adapt. Thank you.
Soy Piedad Viteri, vengo de Ecuador, del colegio Johannes Kepler, que es el primer colegio que logra integrar la sustentabilidad desde la articulación de los ODS y de un hábitat sostenible y regenerativo. Como hemos logrado generar un modelo de educación, vinimos acá con la expectativa de compartir ese modelo para que se pueda replicar en muchos otros colegios del planeta, porque ya es una vía de transformación de la educación.
Ainsi se termine la première saison du podcast Unitaire fait avec Amicus Radio. Avec Michel Forst, nous avons cherché à contrarier un discours de dénigrement savamment entretenu pour décrédibiliser le discours et l'action des défenseurs de l'environnement. Les défenseurs agissent pour notre bien commun, l'efficacité de leur action, mais bien souvent à mal des intérêts privés, des intérêts particuliers et des intérêts puissants. C'est pour cela qu'ils sont dénigrés, menacés, et parfois, malheureusement, assassinés. C'est pourquoi les Nations Unies ont mis en place des mécanismes de protection des défenseurs de l'environnement, comme le mandat de Michel Forst. Dans la saison prochaine, en 2024, nous aborderons des sujets aussi essentiels que le rôle des entreprises et du secteur privé, la façon dont les magistrats se saisissent des enjeux environnementaux et l'action des ONG et leurs leviers d'action. D'ici là, Amicus Radio rediffusera les premiers épisodes de cette saison. À très bientôt.
À bientôt.
Cette émission a été préparée et présentée par Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio. Vous pouvez écouter librement toutes nos émissions sur le site d'Amicus Radio et vous abonner à ce podcast sur les plateformes d'écoute pour ne manquer aucun épisode.